Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Cette semaine, mardi 23 février pour être précis, une légende du basket a annoncé officiellement son retour imminent au jeu. C'est un joueur majeur des années 2000 et 2010 qui a accumulé les titres et les récompenses individuelles, que ce soit en NBA ou dans les compétitions internationales. Alors que les autres grands joueurs de sa génération, les Nowitzki, les Parker, les Navarro, ont déjà arrêté depuis quelques temps, lui part pour une dernière danse à 40 ans. Lui, c'est Pau Gasol, double champion NBA avec Kobe Bryant et les Lakers, champion du monde et triple champion d'Europe avec l'Espagne. Il a décidé de revenir dans ce qui fut son club formateur, le FC Barcelone, avec en ligne de mire une cinquième participation aux Jeux Olympiques l'été prochain à Tokyo. Pour parler du catalan, pour évoquer sa place dans l'histoire, le resituer dans une génération dorée et saisir la portée de son dernier défi, j'ai avec moi aujourd'hui Arnaud Lecomte, un pilier de Step Back. Bonjour Arnaud.
Salut tout le monde.
Samy Sadik pour ce qui sera une première. Alors tu me disais que tu avais déjà plus ou moins participé, mais là tu es là physiquement avec nous. Donc bonjour Samy.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Et pour Maxime, ce sera plutôt une dernière, puisque après avoir été le correspondant de l'équipe à New York pendant combien de temps, Maxime ?
6 ans et demi.
Voilà, il est revenu, il est là avec nous pour la première fois à Boulogne-Billancourt. Tu vas t'occuper, je crois, maintenant d'automobile, de moto, enfin, tout ce qui est avec des moteurs.
Tout ce qui ne manque pas de moteur, mais bon, on va parler un petit peu de balle orange une dernière fois avant de bifurquer.
Allez, avec plaisir, début du game. Alors on va évidemment évoquer la longue et belle carrière de Pau Gasol, qui n'est donc pas terminée. La première trace de Pau Gasol dans les livres d'histoire du basket, c'est 98, c'est le titre de champion d'Europe des juniors en or, espagnol. À l'époque, il n'est pas un des leaders de cette génération, il faut le comprendre. À l'époque, les leaders, c'est Navarro, c'est Raúl López, c'est Felipe Reyes, le petit frère d'Alfonso. Lui, il est un peu en retrait, il tourne à 6 points, mais il fait déjà 2m15 à 18 ans. Il n'a pas encore joué en pro, alors qu'il appartient au Barça. Mais tout ça, ça va aller très très vite, parce que le garçon a un potentiel immense. Il est à la fois grand, mais il est aussi délié. Ses parents sont basketteurs, et lui sent très 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 bien le basket. Et quand on va 3 ans plus tard, à peine, en 2001, il est déjà MVP de la finale de la Liga. Il figure dans un des meilleurs 5 de l'Euroleague avec le Barça, dans le meilleur 5 de l'Euro avec l'Espagne, à côté des Nowitzki, des Stojakovic, des Turkoglu. Et enfin, en 2001, il est pris à la 3e place de la draft NBA. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs Atlanta qui l'a choisi à l'époque. Il a échangé contre Sharif Abdur-Rahim, un des joueurs qui a disputé le moins de matchs de play-off malgré une excellente carrière en saison régulière. Et donc voilà, et donc, en 2001, Pau Gasol arrive en NBA et la suite, c'est Samy Sadik qui nous le raconte.
Eh bien, Gasol, tout simplement, va devenir le premier Espagnol à faire son trou dans la Grande Ligue. Avant lui, il y avait eu Fernando Martín qui avait seulement fait une petite saison en 86-87. Pau Gasol, tout simplement, c'est le premier non-américain à gagner le titre de rookie de l'année dès sa saison rookie, donc la première en 2001-2002. Tout de suite, il va mettre la franchise de Memphis sur la carte, puisque c'est une jeune franchise qui n'avait pas eu de grande star. Pau Gasol, c'est la première vraie star à Memphis. C'est lui qui amène Memphis en play-off pour la première fois en 2004, 2005, 2006. En 2006, c'est aussi le premier à aller au All-Star Game, le premier espagnol. Mais malheureusement, à Memphis, c'est trop limité pour aller se battre avec San Antonio, avec les grandes places fortes de la Conférence Ouest. Donc Pau Gasol à Memphis, il ne gagne malheureusement aucun match de play-off. Son destin va basculer finalement le 1er février 2008, quand il est envoyé aux Lakers, avec un trade qui est resté assez célèbre, puisqu'il envoie Kwame Brown, qui était un des principaux busts, et
C'est les échecs, hein. C'était voilà. Le joueur qui avait été choisi par Michael Jordan en première place de la draft, et c'était une catastrophe.
C'était tout simplement une catastrophe.
Et surtout, Marc Gasol qui fait le chemin inverse.
Et bien, alors, à l'époque, on ne sait pas encore ce que va devenir Marc Gasol. C'est les droits en fait, de Marc Gasol qui font le voyage de Los Angeles jusqu'à Memphis. Et finalement, c'est ce qui va un peu équilibrer le transfert quand on regarde 10 ans après, parce que vraiment, ce transfert, finalement, c'est Pau Gasol contre Marc Gasol. Sauf que Pau Gasol, il arrive en février 2008 aux Lakers, et tout de suite il va aider cette équipe, il va aider un Kobe Bryant qui cherchait désespérément un All-Star comme Pau Gasol pour le retourner en finale NBA. Et tout simplement, en 2008, Pau Gasol est de retour en finale NBA. Ça se passe pas très bien face à Boston, Kevin Garnett notamment le met en difficulté physiquement. Mais en 2009, puis en 2010, Pau Gasol il remporte ses deux premiers titres NBA avec Kobe Bryant. Kobe Bryant est MVP des finales les 2 années, mais en 2010, Pau Gasol fait une grande performance sur le dernier match, le match décisif face à Boston, et aurait peut-être pu prétendre à ce titre de MVP.
Et là, il y a quand même cette anecdote, Maxime, que tu me racontais avant, qu'il est 2 fois champion avec les Lakers, avec Kobe Bryant, Mais ça ne suffit pas à Kobe Bryant.
Rien ne suffisait à Kobe Bryant. Ouais, c'est vrai que la première fois que je suis allé en reportage sur de la NBA, j'étais allé à Los Angeles où il y avait les Lakers et les Clippers en playoff en même temps. Et c'était en 2012 et les Lakers étaient en difficulté. Je crois que c'est contre OKC, je ne veux pas dire de bêtises. Et après le match, Kobe, comme il sait le faire, il n'a pas hésité à s'en prendre à Pau Gasol, à dire « Pau gotta be more assertive », ce qui veut dire plus affirmé, plus agressif. Quand on voit le CV qu'il avait déjà à l'époque, ça fait sourire.
Ça fait trois ans. Les trois années précédentes, il est élu à chaque fois dans ce qu'on appelle les All-NBA Teams, c'est-à-dire un des 15 meilleurs joueurs. Mais pour autant, il ne s'affirme pas.
Il faut qu'il s'affirme. Dans ces matchs de play-off, il fallait qu'il s'affirme au goût de Kobe. Bon, ça n'a pas empêché les deux hommes après de cultiver une vraie amitié. Et on le voit, Pau qui est toujours très proche de la veuve de Kobe Bryant, Vanessa, et de ses deux filles. Donc, il joue un vrai rôle là-dedans aussi aujourd'hui.
Et la carrière de Pau s'est étirée après avec des passages peut-être moins mémorables. Ça n'empêche qu'il est très bon à Chicago. Je vais être honnête, je l'avais presque oublié.
Je crois qu'il ait fait son record de points d'ailleurs, oui. Avec Chicago.
Il est élu dans le deuxième meilleur 5 NBA, il va loin, c'est l'époque où Derrick Rose déjà était blessé mais encore bon, Joakim Noah déjà était blessé mais il est encore bon, on peut le dire quasiment toute l'équipe de Chicago à l'époque, hein. C'est l'époque Thibodeau.
C'est l'époque où il se heurte à Cleveland chaque année aussi, voilà, c'est de cette période-là.
Et puis il y a eu après San Antonio et la dernière vraie saison de Pau Gasol, c'est 2017-2018 avec les Spurs. Depuis, il a essayé de rejouer un peu au Bucks, ça n'a pas donné grand-chose. D'une certaine manière, Arnaud, la carrière de Pau est faite. Aujourd'hui, on peut discuter réellement de sa place dans l'histoire. Et c'est un des plus grands joueurs, je ne vais pas dire même européens, mais internationaux de l'histoire de notre jeu.
Oui, incontestablement. Il y a une carrière qui est extrêmement longue, puisque ça fait, vous l'avez rappelé, plus de 20 ans qu'il joue au plus haut niveau. Alors 20 ans en NBA bientôt là, même s'il n'a pas joué en NBA ces derniers mois, mais au plus haut niveau depuis effectivement la fin des années 90. Ça suffit à situer un joueur. Bon, au-delà de ça, je pense que c'est un des plus grands sportifs aussi du sport espagnol, qui n'en manque pas, hein, notamment ces dernières années dans les sports mécaniques dont parlait Maxime. Il y en a déjà quelques-uns, mais bon, on parle
Alonso Marquez,
les plus grands footballeurs de ces dernières années qui ont beaucoup marqué aussi à travers les résultats de l'équipe d'Espagne dans les sports co d'une manière générale. C'est un, donc pour revenir au basket, oui, à l'échelle de l'histoire du jeu, je pense qu'avec quelques autres, il se situe très très haut parmi les internationaux, comme on dit, c'est-à-dire les non-américains. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au-delà de la longévité et du talent pur, c'est un palmarès. Et puis, il y a surtout une époque. C'est-à-dire qu'il est le joueur iconique avec deux, trois autres, dont notre Tony Parker national. Il est le joueur iconique de la poussée internationale des années 2010 et 2010-2020. Ils sont quelques-uns, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol. Et là, le trio qui, effectivement, dans l'histoire du jeu, hormis les Américains, eh bien, est au top NBA et jeux internationaux confondus.
Il est, si on regarde, c'est difficile de séparer ces trois-là, Nowitzki, Gasol, Parker. Les statistiques ne servent à rien. Un Nowitzki a marqué plus de 30 000 points en saison régulière NBA, sauf qu'un Parker est numéro un au point marqué en play-off. Il en a marqué deux fois plus que Pau Gasol, mais Pau Gasol a marqué l'histoire en gagnant deux titres avec les Lakers. Donc, d'une certaine manière, Samy, j'ai l'impression que ces trois-là, en fait, sont inséparables et qu'il ne servira à rien d'essayer d'en mettre un au-dessus de l'autre.
C'est très, très compliqué d'essayer de les différencier parce que, finalement, Pau Gasol a peut-être plus de succès internationaux avec sa sélection, l'Espagne, mais on peut dire qu'il avait peut-être de meilleurs alliés, de meilleurs lieutenants qu'un Dirk Nowitzki avec l'Allemagne. On peut dire aussi que Dirk Nowitzki n'a qu'un titre contre deux pour Pau Gasol, mais pareil, la longévité de Dirk Nowitzki aussi est quelque chose d'inégalable, d'impressionnant. Donc finalement, c'est un peu comme les trois monstres sacrés de ce basket européen des années 2000-2010 qui débordent. Et Pau Gasol, il a pleinement sa place dans ce trio. J'ai vu tous les classements possibles et inimaginables avec les trois qui sont en 1, en 2 ou en 3. Je pense qu'un joueur comme Pau Gasol, il est impossible de le mettre en dessous de ces deux-là pour tout ce qu'il a fait sur sa sélection internationale, mais aussi le fait, par exemple, que c'est un des rares qui a réussi à être un coéquipier de Kobe Bryant, qui a réussi à survivre dans, pas la torture mentale, mais l'exigence absolue qu'imposait Kobe à tous ses coéquipiers. Et ça prouve aussi quelque chose, au-delà des statistiques, au-delà du palmarès, du garçon qu'était Pau Gasol.
Justement, Max, aux États-Unis, est-ce que Pau Gasol est reconnu à sa juste mesure ?
Toujours difficile, mais c'est vrai que ce trio-là, il est pareil, il est un peu vu comme celui qui a fait basculer l'image aussi des joueurs européens auprès des Américains, aussi bien des médias, des GM, des dirigeants que du grand public. Donc voilà, est-ce qu'il est respecté à sa juste place ? C'est sûr que, vu que ses succès, on va dire, comme on disait, Pau Gasol, si on devait donner le point fort des trois, Pau Gasol, c'est les succès en équipe nationale. Dirk Nowitzki, c'est les stats individuelles. Et Tony Parker, c'est les titres en NBA. Donc forcément, le domaine victoire internationale, c'est celui qui marque le moins le public américain. Mais le fait d'avoir joué les Lakers, qui est une des plus grandes franchises de tout le sport américain, peut-être la plus grande même, pour faire plaisir à Guillaume de Goulet, et d'avoir joué avec Kobe... Et d'autres, comme je le disais, encore présents un petit peu aujourd'hui au travers d'avoir été quelqu'un qui a répondu présent dans la douleur et le deuil qu'il a fallu faire après le décès de Kobe. Ça fait que ouais, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui quand même très, très installé. Puis il y a eu son frère aussi. Le fait qu'il y ait son frère, de devenir la première paire de frères à être ensemble au All-Star Game, d'être en plus titulaire et de faire l'entre-deux, de démarrer l'un face à l'autre. Voilà, c'est aussi le genre d'image et d'histoire qui marque beaucoup le public américain. Donc... il a une image qui est un peu proche de ces deux autres joueurs européens. C'est difficile de dire s'il est plus ou moins populaire. Je pense que ça dépend de la région des États-Unis où on va aller. Au Texas, peut-être pas. Mais ailleurs, probablement qu'ils sont à peu près au même niveau.
Arnaud, c'est un des derniers des Mohicans d'une génération extraordinaire. Alors cette génération, c'est toujours difficile de limiter une génération. Si on parle hors sport, normalement une génération, ce sont des gens qui sont nés à 5 ans de différence maximum. Là, on va aller de 77, c'est-à-dire l'année de naissance hein, d'un Ginobili, d'un Papa Lucas, d'un Sujakovic, jusqu'à 82. Ben justement, ça fait 5 ans, celle de Parker et Dio, en passant par... cette incroyable année 80 qui a vu naître Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, Luis Scola, Yao Ming, Diamantidis. Moi, j'aurais envie de dire que c'est la plus grande génération de basketteurs de l'histoire, mais d'une certaine manière, c'est un peu triste de dire ça, parce qu'avant, ceux qui étaient très forts n'avaient pas la possibilité d'aller en NBA. Donc, est-ce qu'on n'a pas un prisme déformant si on dit que c'est la plus grande génération de basketteurs internationaux de l'histoire ?
Oui, forcément, puisque en effet, ce sont pour la plupart, à quelques exceptions près, tous des joueurs qui ont brillé en NBA. Et encore une fois, le contexte de l'époque pèse lourd pour effectivement situer, placer ces joueurs-là, cette génération-là. Bien sûr. Après, je pense que malgré tout, leur palmarès international. Si on veut bien enlever la partie NBA, leur palmarès international est quand même de toute façon très lourd, également suffisamment lourd pour que on les situe au très très haut niveau. D'autant plus que la concurrence aujourd'hui à l'échelle internationale, notamment, est beaucoup plus importante que dans les années 70 par exemple ou dans les années 80, parce que à cette époque-là, bon, on sait que à l'échelle internationale, hormis les États-Unis, les deux équipes sélection dominatrice étaient l'URSS et la Yougoslavie, qui depuis à la fin des années 80, début des années 90, ont éclaté et se sont atomisés avec beaucoup de sélections qui sont aujourd'hui devenues très compétitives, donc comme la Lituanie, la Russie côté de l'ex-Union soviétique, et comme bien sûr les républiques yougoslaves. On sait que la Slovénie, par exemple, qui a toujours été la petite république de la grande Yougoslavie, est championne d'Europe en titre, et aujourd'hui nous offre, avec Luka Doncic, peut-être le grand successeur de cette génération Parker, Nowitzki, Gasol qu'on met en avant. Donc oui, je crois vraiment que cette génération-là est unique en son genre, parce qu'elle a su en plus effectivement être un petit peu iconique, être un peu porte-drapeau, être un peu de réussir cette synthèse entre la dimension internationale et les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe et la réussite en NBA. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont tous réussi très fort en NBA. Un garçon comme Pau Gasol, même s'il est peut-être individuellement un poil en dessous de Dirk Nowitzki et de Tony Parker sur le plan de la réussite individuelle. Malgré tout, 6 fois All-Star, il est 2 fois champion en étant lieutenant d'un monstre, d'une légende comme Kobe Bryant. Il a des réussites individuelles. Alors, il a jamais été MVP, contrairement à Dirk Nowitzki ou à Tony Parker qui a été MVP des finales. Mais voilà, ces trois-là ont quand même combiné tout ça. Et tous ceux qui sont de cette génération-là ont un palmarès international éblouissant. Il y a des champions olympiques là-dedans entre Luis Scola et Manu Ginobili dans les années 70. Il y a eu un champion olympique soviétique et deux champions olympiques soviétiques en 72 et en 88, mais c'était pas aussi concurrentiel qu'aujourd'hui.
Justement, on en a parlé là de la place de Pau Gasol dans l'histoire et c'est extrêmement intéressant. Mais parlons de Pau Gasol en lui-même, c'est-à-dire c'était un joueur assez original. Alors qu'il l'est peut-être plus trop, puisqu'aujourd'hui on sait que ce qu'on appelle les seven-footers, c'est-à-dire les joueurs d'au moins 2m13, sont souvent capables de shooter, de courir. Mais lui, ça a été un des premiers, Samy, à avoir ce jeu délié, ce jeu complet, malgré un physique qui, dans les années 70, l'aurait coltiné à 1 mètre de la raquette et pas plus.
C'est ça, Pau Gasol, c'est un des premiers profils vraiment d'intérieur passeur qui va marquer la NBA. On se souvient par exemple qu'aux Lakers, quand il était avec Andrew Bynum, il y avait énormément de services de Pau Gasol pour Andrew Bynum, pas
qui
très loin du cercle.
Qui était lui un pur pivot,
qui bougeait pas de la raquette. Et Pau Gasol, c'est un profil voilà, qui a marqué les Américains autant que Dirk Nowitzki, qui était ce grand intérieur capable de tirer à 3 points. Ça a montré que finalement, un pivot, un intérieur comme Pau Gasol, c'est pas juste un énorme morceau de viande qu'on met dans la raquette pour être alimenté en ballon tout près du cercle. C'est un joueur sur lequel on peut se reposer pour créer du jeu à côté d'un autre créateur dans le jeu des Lakers, par exemple.
Quelqu'un qui aime beaucoup le basket, qui l'intellectualise d'une certaine manière. Je crois que tu avais une anecdote sur sa fan de lecture.
Exactement. C'est un joueur qui adorait lire. Il le disait dans plusieurs interviews, qu'il regrettait même que la saison NBA soit si intense qu'il n'ait pas beaucoup le temps de lire. Il avait une relation très particulière avec Phil Jackson, qui était aussi un grand passionné de lecture. Les deux s'échangeaient des livres. Et Pau Gasol, il lisait pas simplement pour son plaisir, il lisait pas simplement pour se détendre entre deux déplacements, mais il lisait aussi, ça lui apportait quelque chose dans son jeu, dans son basket. Il disait qu'il lisait aussi beaucoup de livres de management qui l'aidaient à être un leader, notamment en sélection. Il lisait beaucoup de livres comme ça pour aborder de la meilleure des manières, avec une vraie préparation mentale, ses grands rendez-vous. Et ça montre aussi le joueur que c'était, un joueur intellectuellement en avant sur ses contemporains de l'époque.
Max, je voudrais qu'on parle de la personnalité aussi, Pau Gasol. Comment il était avec les médias, avec la foule, en gros, dans son personnage public, quel type d'homme c'est ?
Ça reflétait un peu voilà, cette ouverture d'esprit et cette curiosité. C'est quelqu'un qui allait discuter. Moi, je l'ai surtout croisé quand il était dans le vestiaire des Spurs, qui n'était pas forcément sa meilleure période, mais à chaque match, quand il fallait répondre, il était là, même si c'était un peu moins bien, il parlait franchement et honnêtement, il se cachait pas. Voilà, c'était ça et cette curiosité aussi de discuter parfois avec plutôt les journalistes locaux qu'il connaît, qu'il croise au quotidien, mais voilà, il y avait cette ouverture et voilà, un peu au-delà du fait d'être conscient que c'est son rôle de parler, parce que sinon on prend des amendes en NBA si on parle pas aux médias. Il y avait un peu plus que ça, quoi, dans l'échange et cette envie de cette ouverture.
Ce qui n'est pas toujours gagné.
Non, c'est pas toujours le cas. Il y a des fois certains joueurs peuvent s'échapper avant que le vestiaire s'ouvre. Parfois, on le sait, ça peut arriver comme ça. Lui, c'était pas son cas.
Pau Gasol, c'était finalement devenu Pau l'Américain, d'une certaine manière. Sa compagne est américaine, c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'est pas à Barcelone aujourd'hui, parce que je crois que sa compagne a quelques soucis pour l'instant pour traverser les États-Unis. Ils ont un très jeune enfant, donc voilà. Mais c'est Pau l'Américain, intégré, célébré, gagnant là-bas, mais c'est aussi resté toujours Pau l'Espagnol, c'est-à-dire d'une fidélité sans faille pour la sélection. On a payé pour voir en 2015, avec cette fameuse défaite en demi-finale de l'Euro en France.
Il ne fallait pas lui infliger 2014. Oui. Donc, voilà.
Il s'était vengé de la fameuse défaite des Espagnols en quart de finale du championnat du monde chez eux, à Madrid. Donc, l'année suivante, à Villeneuve-d'Ascq, il met 40 points sur la truffe des Français. Et c'est à notre tour d'être éliminé de notre grand tournoi à domicile. Mais il est donc toujours resté proche de l'Espagne. Et la preuve, c'est que après avoir envisagé de revenir en NBA, là, il essayait de revenir. Il essaye de soigner tout ce qui est son articulation, pied gauche, cheville gauche, qui est blessée depuis 2 ans. Mais il essaye de la soigner. Il voulait revenir aux Lakers. Ça aurait été une occasion de jouer pour la première fois réellement avec Marc en club en NBA. Et là, finalement, il revient au Barça. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Arnaud, de cette ultime danse, de cette dernière danse de Pau cette année et peut-être l'été prochain?
Je pense qu'on ne peut pas attendre grand-chose tout de suite, a priori. Rappelons quand même qu'il n'a pas mis les pieds sur un terrain depuis bientôt 2 ans, en raison d'une opération au pied gauche, me semble-t-il. Il avait tenté de revenir sous le maillot de Portland, sans débuter la saison, si je me souviens bien, il y a un an et demi maintenant, début de saison dernière. Voilà, donc c'est difficile d'évaluer sa capacité à être opérationnel, compétitif très vite dans les semaines à venir. Il semblerait, d'après les premiers échos qu'on peut avoir de ce retour, qu'il prendra son temps de toute façon pour se remettre en route. Le Barça n'a pas un besoin impératif pour le moment. Il est a priori bien parti pour se qualifier sans difficulté pour les playoffs de l'Euroleague. L'objectif
Barcelone est première de l'Euroleague pour l'instant, juste pour le préciser, c'est important.
L'objectif suprême du Barça, c'est d'être champion d'Europe cette année. Ça fait ça fait plus de 10 ans maintenant, puisque le dernier titre remonte à 2010. Le Barça est passé par des moments très compliqués ces dernières années, le Barça basket, donc comme le Barça football en ce moment d'ailleurs. Et du coup, l'idée, c'est qu'il aide à reconquérir ce titre de champion d'Europe. Et surtout, l'idée, bien sûr, de Pau Gasol, c'est probablement de terminer, ou en tout cas... sa carrière internationale, c'est certain. Sa carrière tout court, on verra. Sa carrière internationale, c'est certain. Cet été à Tokyo pour les Jeux Olympiques, le tournoi olympique, si bien sûr il a lieu. Mais je crois que l'idée, c'est ça, c'est qu'il se remette en route avec le Barça. C'est un peu comme Thomas Hurtel, à un niveau moindre, bien sûr, parce que Thomas Hurtel a encore pas mal d'années devant lui de carrière. Mais l'idée, c'est effectivement de se remettre en forme physiquement, dans le rythme, après 2 ans d'absence, et se remettre dans le coup pour aller au jeu, où sa place est gardée bien au chaud, je pense, par Sergio Scariolo, le coach de l'équipe nationale.
Max,
je pense qu'il y a un truc, c'est que Pau Gasol, l'avion du Barça partira pas sans lui, à aucun moment. Hein, ça, il n'y aura pas de problème.
Je reviens plutôt vers toi, Arnaud. D'une certaine manière, est-ce que la sélection de Pau, s'il arrive à enchaîner les matchs, quel que soit le niveau, est assurée, tellement c'est une icône en Espagne? Rappelons que l'Espagne est une sélection qui, même sans lui, restait ultra compétitive, puisqu'elle a tout simplement été championne du monde. Elle a gagné la Coupe du Monde, puisque ça s'appelle comme ça, en 2019, sans lui, avec Ricky Rubio MVP, son frère Marc en rôle important. Donc ça veut dire qu'en gros, on pourrait choisir les meilleurs, et si Pau n'en fait pas partie, ne pas le prendre, mais d'une certaine manière, ne pas prendre Pau, ne pas lui permettre d'être le plus vieux joueur jamais présent aux Jeux Olympiques, plus que le José Ortiz, le portoricain, c'est impossible. On est obligé de prendre Pau, c'est ça?
Je ne sais pas si c'est pour battre un record d'âge, je ne pense pas, je pense que c'est... quelque part, c'est obligatoire. On peut pas passer à côté de Pau Gasol quand on est coach de l'équipe nationale et d'un Pau Gasol en état de l'être. Je pense que Scariolo va pas non plus lui faire de cadeau. Je crois qu'il faudra vraiment qu'il soit en état de jouer. On verra bien au mois de mai-juin quand il s'agira de trancher. Je crois que du côté de la sélection espagnole, il aura certain passe-droit d'une certaine manière. L'équipe nationale démontre qu'elle est compétitive sans lui, puisqu'elle a été championne du monde, donc tu le rappelais, il y a un an et demi maintenant, sans lui et sans quelques autres. Ça veut dire que cette équipe nationale, elle continue à vivre, elle a très bien vivre, et qu'elle fera partie bien sûr du trio être joueur de favori pour les médailles cet été encore. Et je pense qu'il y aura une place pour lui de toute façon. Pourquoi ? Parce qu'il y a de toute façon personne qui a vraiment pris sa place depuis, depuis sa dernière grande compétition qui est l'Euro 2017. Personne n'a pris sa place en sélection. Donc il y aura toujours un petit un siège, soit royal, soit un strapontin. Ça dépend comment on voit les choses. On verra dans quel état il est. Mais je pense qu'ils peuvent pas, on peut pas se priver d'un garçon de cette expérience, de ce talent, de cette capacité-là à se fondre dans un collectif, parce que ça, partout où il est passé, il s'est fondu très vite dans le collectif, malgré ses spécificités, malgré son profil qui est très, comme le rappelait Samy tout à l'heure, qui est assez particulier, puisque c'est un joueur de très grande taille, 7 pieds, comme on dit aux États-Unis, qui est capable de jouer à la fois un peu en périphérie et tout près du panier, avec des capacités très complètes de passeur, de shooter, etc. Et moi, je me souviens l'avoir vu dans les tout débuts des années 2000, à l'Euro en Turquie en 2001, son premier championnat d'Europe chez les seniors. Il jouait quasiment à l'aile, avec cette capacité à jouer en 1 contre 1, loin du panier, ce qu'il faisait très très bien à l'époque. Donc il avait vraiment une panoplie complète, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça reste un joueur qui, dans un collectif, est un pur bijou, quoi.
Samy, je crois que tu avais une anecdote justement sur le lien entre Pau Gasol et l'Espagne, ce lien défectible qui fait qu'il va là tenter de chercher à remporter une 4e médaille olympique, ce qui ferait de lui l'équivalent de ceux qui en ont gagné le plus jusqu'à maintenant, les Sergei Belov, les Carmelo Anthony.
Mais dans les mots même de Kobe Bryant, son grand copain aux Lakers, l'Espagne c'était tout pour Pau Gasol. Il n'aime rien de plus que son pays, c'était les mots de Kobe Bryant. Et donc la scène se passe après 2008, donc Pau Gasol il vient de vivre une année frustrante, il perd en finale contre les Celtics avec les Lakers, et quelques mois plus tard à Pékin pour les Jeux, il perd en finale avec l'Espagne contre les États-Unis de Kobe Bryant. Premier jour du camp d'entraînement à Los Angeles, Pau Gasol arrive, il ouvre son casier, qu'est-ce qu'il voit dans le casier ? La médaille d'or de Kobe Bryant qu'il avait mis là pour le provoquer. Donc là, Kobe raconte que Pau Gasol l'a traité de tous les noms, mais que Kobe Bryant lui a ensuite dit cette phrase, c'est « Essayons de ne pas perdre une troisième fois d'affilée », donc sur le titre NBA 2009, et que cette phrase-là a vraiment incité Pau Gasol à travailler son côté, sa domination physique aussi dans les raquettes, qui lui avait peut-être pêché un petit peu en 2008 face à Kevin Garnett, et que cela a vraiment lancé les Lakers sur la route de 2 titres consécutifs en 2009 et 2010, donc ne touchez pas à l'Espagne quand vous parlez à Pau Gasol.
On va finir avec toi, Max, parce que tout simplement je veux finir avec toi après toutes ces années agréables à parler basket. Pau Gasol, on l'a longtemps détesté en France parce qu'il symbolisait peut-être moins que Rudy Fernandez, un petit peu moins même que Juan Carlos Navarro, malgré tout, on l'a détesté parce qu'il symbolisait le fait que la génération Parker n'a pas gagné de plus de titres parce qu'elle est toujours tombée sur les juniors en or, cette génération Gasol. J'ai l'impression que tout ça, ça a disparu. Aujourd'hui, il n'y a que du respect pour cette carrière immense qui est celle de Pau Gasol, qui va continuer encore quelques mois.
Ouais, il a peut-être un petit peu moins de vices que les deux noms que tu as cités. Voilà, c'est pas la... C'est pas la même manière de jouer, de s'affronter. C'est quand il nous a battus, bah il l'a fait comme Villeneuve d'Ascq, en explosant tout au niveau du jeu, quoi. Pas forcément en faisant des petites choses. Donc ça, c'est forcément rageant de perdre tout le temps face à lui, de se heurter tout le temps à la même personne. Mais du coup, quand on regarde dans le rétro, il l'a fait, il le méritait, quoi. C'est comme dans beaucoup de sports, Je pense, on a parlé de tennis récemment, je pense que les gens qui perdent contre Nadal ou Federer, qui disent pas un mot, sont un peu moins agacés que quand ils perdent contre Djoko, donc qu'ils ont entendu se plaindre de ses blessures pendant toute la quinzaine. Voilà, c'est ces petites choses-là qui s'ajoutent aux joueurs qu'on est et qui font que, au moment où on arrive vers la fin de sa carrière, le regard des gens, du grand public, des adversaires est un petit peu différent.
Je vous remercie à tous. Merci notamment à Arnaud qui s'est arrêté en plein milieu d'un bel article que j'ai très envie de lire. On n'en parle pas plus que ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler All-Star Game NBA. Même si les joueurs ne veulent pas le faire, il aura bien lieu. C'est donc l'occasion d'en parler. Merci et bonne semaine à tous. Ciao, ciao.